France Inter.
C'est le droit naturel du peuple juif d'être une nation comme les autres nations et de devenir maître de son destin dans un état souverain. En vertu des droits naturels et historiques du peuple juif et de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous proclamons la fondation de l'État juif dans le pays d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël.
14 mai 1948, 16h. Juste avant le début de Shabbat, David Ben-Gourion proclame à Tel Aviv la naissance de l'État d'Israël. Il en devient le premier Premier ministre. Dans son discours figurent alors les grands principes constitutifs d'un État de droit. On y trouve les mots de justice et de paix, de liberté de conscience et de culte, et d'égalité de droit à tous les citoyens, sans distinction de croyance, de race et de sexe. Ce pays, qui naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, se veut alors socialiste et laïque. 75 ans plus tard, Israël est confronté à une crise intérieure profonde et inédite, peut-être la plus marquante de son histoire.
Aujourd'hui en Israël, nous sommes au pire stade, celui où la droite qui était dans le passé une droite modérée est aujourd'hui une droite populiste, nationaliste, alliée à l'extrême droite pour qui la suprématie juive, le racisme sont la conception idéologique et donc c'est la coalition la plus extrême qui ait jamais existé en Israël.
Cette coalition, c'est celle dirigée depuis le mois de novembre dernier par Benjamin Netanyahou. Il a nommé ministre de son gouvernement les suprémacistes juifs Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Homophobes, racistes, antidémocrates, convaincus de la supériorité de la loi divine et de celle du peuple juif, ils lui ont offert une large majorité qui lui échappait depuis 2019. Non sans conséquence sur le processus de paix avec les Palestiniens qui voient se multiplier les colonies en Cisjordanie.
Ces extrémistes ne veulent absolument pas de solution pacifique. Ils ne veulent pas d'État palestinien. Ils le déclarent, ils le disent. Et ils veulent avoir une tranquillité, une sécurité à l'intérieur des barbelés qui les entourent. On ne vit pas ensemble, ils ne nous connaissent pas.
Depuis le début de l'année, des centaines de milliers d'Israéliens manifestent tous les samedis soirs contre celui que l'on surnomme Bibi, Benjamin Netanyahou. Il l'accuse de vouloir transformer le pays en une démocratie illibérale. C'est lors d'un de ces rassemblements que Limor Livnat, figure historique du Likoud et ancienne ministre de Netanyahou, s'apprête à prendre la parole. Dans la foule, des militants de gauche comme de droite, et à leur côté, les journalistes Frédéric Mettezo et Jérémy Thuil qui signent ce reportage « Israël, la tentation théocratique ».
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
C'est samedi soir à Kfar Sava, dans la banlieue de Tel Aviv. Depuis le mois de janvier, des dizaines, des centaines de milliers d'Israéliens manifestent, souvent d'ailleurs avec le drapeau bleu et blanc du pays. Ils manifestent contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement de droite et d'extrême droite. Là, par exemple, on entend les gens dire « boucha », ça veut dire « la honte ». La honte, c'est le projet de réforme du système judiciaire que porte Benjamin Netanyahou et ses ministres. On ne laissera pas faire, c'est ce que disent les manifestants, à l'unisson de l'oratrice Limor Livnat, une ancienne ministre de Benjamin Netanyahou. C'est une femme de droite et elle ne reconnaît plus le parti dans lequel elle a milité pendant des années. On va aller l'écouter.
La démocratie, ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est les libertés, les droits individuels, c'est les droits des femmes, les droits des LGBT. La démocratie, c'est la liberté de la presse et la liberté de l'audiovisuel public de pouvoir diffuser sans être menacé. Et la démocratie, c'est l'égalité des droits pour tous.
Azem Korimli Azem
Il m'appelle la gaucho. Il m'appelle la traîtresse. Il m'intimide. Il m'insulte. Et il jure allégeance non pas aux idées, mais à un seul homme. C'est un culte de la personnalité.
Le discours de Limor Livnat est terminé. On va demander aux gens dans le public ce qu'ils ont pensé de ce discours. Comment vous appelez-vous, monsieur ?
Daniel.
Naïméot Daniel, enchanté. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de Limor Livnat, qui était ministre de Netanyahou et qui vient dénoncer ce gouvernement de droite de Netanyahou ?
Il y a sa présence et surtout ce qu'elle a dit. Ce sont les propos les plus exacts et les plus importants qui soient. Toute personne à la droite de l'échiquier politique doit les entendre, les comprendre et y réfléchir. Je suis quelqu'un de gauche, mais la discussion désormais n'est pas celle de la droite ou de la gauche. C'est celle de l'essence de l'État d'Israël. Il est temps de prendre des décisions importantes. L'extrême droite est devenue plus visible et agressive. Elle perd la raison. Pourquoi y a-t-il un gouvernement aussi extrême aujourd'hui ? Parce que Benjamin Netanyahou a besoin des extrémistes pour survivre dans la vie politique. Il y a trois sujets fondamentaux autour de cette crise. Le premier, c'est la séparation entre la religion et l'État. Le deuxième, c'est la question « Quelles sont les frontières de l'État d'Israël ?» Et le troisième est « Que se passe-t-il avec la population qui n'est pas juive à l'intérieur du territoire d'Israël ?» Ces trois sujets ont embrasé le pays. Et c'est Benjamin Netanyahou qui a soufflé sur les braises, simplement pour sauver sa peau.
Et alors, comment on essaye de régler ces problèmes et comment on essaye de sortir de la crise ?
On se parle. C'est la seule option.
Merci Daniel. Toda Rabba.
Merci beaucoup.
Les canons à eau de la police israélienne tournent à plein régime dans le centre de Tel Aviv, où des milliers de protestataires ont réussi à bloquer le périphérique de la ville. Tous sont venus exiger le retrait immédiat de la réforme judiciaire voulue par Benjamin Netanyahou et adoptée en première lecture. Des Israéliens préoccupés par la direction non démocratique que prend selon eux l'État hébreu. Car désormais, il est bien plus difficile de destituer le Premier ministre. Le Parlement peut lui maintenant outrepasser une décision de la Cour suprême par un simple vote majoritaire. Empêtré dans plusieurs scandales, notamment de corruption, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est à la manœuvre depuis de longues semaines. Pour ses détracteurs, cette réforme a un but, lui permettre de se maintenir en poste malgré les affaires.
Sur Atikva, c'est l'hymne israélien. On va va sortir. La foule est vraiment beaucoup plus dense qu'en début de soirée. C'est une marée de drapeaux bleus et blancs. On va essayer de sortir de cette foule. Foule extrêmement jeune. Et on va se diriger vers le café qui borde la place. Il fait très doux ce soir à Kfar Saba. Il y a des palmiers tout autour de nous. On sort de la grande place du centre commercial pour retrouver l'oratrice du début de la soirée, Limor Livnat, qui nous a attendus et qui va répondre à nos questions. Voilà le café, on va se faufiler entre les tables. Shalom, Naimeod, Annie, Frédéric, Mi Yerushalayim.
Shalom, Ata, Jérémy.
Jérémy, Mi Paris.
Mi Paris, enchanté.
Merci beaucoup, Limor Livnat. Qu'est-ce qui a changé dans la droite israélienne? Pourquoi la droite israélienne de 2023 n'est plus celle de 1977 ou même de 2000?
Ce n'est pas la droite israélienne qui a changé. C'est le Likoud. Moi, je suis de droite. Et je suis restée de droite. Le problème est que le Likoud est devenu un parti du culte de la personnalité autour d'un seul homme. Netanyahu. Tout ce qu'il dit est considéré comme les mots d'un saint homme. C'est vrai que Menahem Begin, quand il était notre leader, était aussi un homme que l'on suivait presque les yeux fermés. Mais lui n'a jamais exigé de tels changements. Il ne demandait pas à être considéré comme un saint. Là, ce que Netanyahou fait, il le fait principalement pour lui-même. Pour se sauver des accusations, pour se sauver des procès contre lui, ou contre son ministre, Aryeh Deri. À l'origine, ce n'est pas le Likoud. Il l'a complètement transformé. Dans le passé, Menahem Begin parlait de la supériorité de la justice. Et d'ailleurs, Netanyahou lui-même en a parlé plusieurs fois. Il y a beaucoup d'enregistrements de lui disant cela. Et là, d'un coup, il fait tout l'inverse de ce qu'il a toujours dit. Ce n'est pas le Likoud. Ce n'est pas mon Likoud. Ce n'est plus ma maison. Je ne peux pas accepter ce culte de la personnalité.
Est-ce que la droite israélienne n'a pas changé aussi parce qu'elle s'est alliée avec les religieux et avec les sionistes religieux?
Non. Encore une fois, c'est vrai ce que vous dites. Mais ce n'est pas la droite israélienne qui a changé, c'est le Likoud qui a changé à partir du moment où Netanyahou s'est allié avec l'extrême droite kahaniste. Ce moment où il a rallié à lui les plus extrémistes des extrémistes de droite. Eux, ils n'ont jamais fait partie du Likoud. Quand Meir Kahan, qui était député, se présentait à la tribune pour tenir un discours, Itzhak Shamir, alors premier ministre de droite, sortait de l'hémicycle.
Oui, Meir Kahana, dans les années 80, c'était un député juif d'extrême droite. Il défendait une ségrégation entre juifs et non-juifs. Et son mouvement a été interdit pour racisme et terrorisme dans les années 90. Il est un peu le père spirituel du ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir.
Exactement.
Bidiouk, année.
Moi, je ne peux pas faire partie de cela.
Et aujourd'hui, le descendant de Meir Kahana est au gouvernement, ministre de la police, c'est Itamar Ben-Gvir.
C'est exact.
Et cela, ça vous fait mal?
Beaucoup. J'étais membre de ce parti, le Likoud. Avant même que Bibi n'en soit membre. Ça fait plus de 50 ans. Je l'ai quitté il y a 2 ans. Je n'en pouvais plus.
Israël a 75 ans. Comment va Israël aujourd'hui?
Pas bien. L'État est malade. Il est malade. Et je suis inquiète, très inquiète.
Vous avez presque les larmes aux yeux.
C'est vrai.
J'aime beaucoup mon pays.
J'aurai bientôt 73 ans. Et je suis très inquiète, oui.
Merci beaucoup, Limor Livnat. Toda raba.
Merci.
Nous sommes à présent à Jérusalem. On va retourner en quelque sorte sur les bancs de la fac puisque nous sommes sur le campus de l'université hébraïque. On a rendez-vous ce matin avec la professeure Gaïl Talchir. Elle est spécialiste de sciences politiques. Elle a travaillé en profondeur sur l'évolution de la droite israélienne et le changement du paysage politique en Israël. Il faut expliquer que l'université hébraïque de Jérusalem, un peu comme les hôpitaux, c'est un endroit où là, on voit vraiment toutes les populations d'Israël, des juifs, des arabes, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, des laïcs, des religieux. C'est très diversifié, c'est très mélangé. Et c'est vrai que ces endroits où les gens se mélangent et où ils ne se contentent pas d'être côte à côte, ces endroits sont finalement assez rares. En quoi la droite israélienne a changé sous Benjamin Netanyahou ?
En 77 se produit ce qu'on a appelé le renversement, avec pour la première fois l'arrivée du Likoud au pouvoir. Notre situation devient alors semblable à ce qui existe en Europe. Deux grands partis, l'un de droite, l'autre de gauche. Les deux sont nationaux et libéraux, chacun avec ses positions sur le conflit israélo-palestinien et l'économie. À partir de 1996, le Premier ministre est élu au suffrage direct et le premier à remporter ces élections directes, c'est Benjamin Netanyahou. Il l'emporte sur Shimon Peres à un moment vraiment dramatique pour le pays, juste après le meurtre d'Yitzhak Rabin. Les rues sont à feu et à sang, la fracture au sein du peuple est grande. Et Netanyahou prend le pouvoir en tant que représentant de la droite. Il revient alors des États-Unis et il est perçu comme un politicien aguerri, notamment par sa façon de se servir des médias ou de travailler. Il s'entoure d'un conseiller stratégique qui s'appelle Finkelstein. Ce dernier importe des États-Unis le recours au sondage. Le premier sondage que Finkelstein commande pour Netanyahou en 96 pose une seule question. Vous sentez-vous plus juif ou plus israélien ? Le résultat à l'époque les a étonnés parce que les personnes de droite ont répondu « juif ». Et les personnes du centre et de gauche ont répondu « israélien ». Cette réponse est en fait la clé pour comprendre les changements dans la droite israélienne ces 10 dernières années. Un an plus tard, en 1997, Netanyahou chuchote à l'oreille du rabbin Kadouri une phrase désormais célèbre. La gauche a oublié ce que c'est que d'être juif. Et ce sera la clé avec laquelle il redessinera la carte politique du pays.
Cette alliance entre le Likoud et les partis religieux Haredim, c'est vraiment la marque d'une nouvelle droite en Israël, une droite plus religieuse.
Mes recherches portent vraiment sur les idéologies politiques.
La différence entre la droite d'avant 2009 et celle d'après 2009, c'est-à-dire quand Netanyahou revient au pouvoir, c'est la définition de ce qu'est un État juif et démocratique. Netanyahou utilisera deux fois ces termes, juif et démocratique. Ce que Netanyahou comprend, c'est que pour recréer le bloc de la droite, il faut redéfinir le judaïsme, que le judaïsme ne soit plus une identité nationale laïque, mais une religion.
Il
se soucie de délégitimer la gauche. La gauche coopère avec les Arabes. Les Arabes coopèrent avec l'islam radical. Donc, la gauche n'est pas patriote. Et donc, elle n'est pas légitime. Du coup, avec ce raisonnement, seule la droite incarne le camp national. C'est un enchaînement idéologique qui ne place pas seulement le judaïsme au cœur des débats, mais permettent aussi de délégitimer toute personne qui n'adhère pas à la conception même de suprématie juive. Cette notion de suprématie juive est la vraie réponse à votre question sur la montée de l'extrême droite. Et aujourd'hui en Israël, nous sommes au pire stade. Celui où la droite, qui était dans le passé une droite modérée, est aujourd'hui une droite populiste, nationaliste, alliée à l'extrême droite, pour qui la suprématie juive, le racisme, sont la conception idéologique. Et donc, c'est la coalition la plus extrême qui ait jamais existé en Israël.
Les principaux soutiens de cette droite, plus libérale économiquement, plus religieuse, plus radicale, ce sont d'abord les quelques 600 000 colons israéliens installés à Jérusalem-Est ou en plein milieu de la Cisjordanie. Ils refusent l'idée d'un État palestinien et rêvent d'un Eretz Israël, d'un grand Israël dont les frontières seraient dessinées non pas par le droit international, mais par la Torah. Parmi eux, le très controversé ministre de la Sécurité nationale, le suprémaciste juif d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir.
Connu pour ses propos racistes et partisan de l'utilisation des méthodes les plus brutales à l'égard des Palestiniens, Itamar Ben-Gvir et son ascension politique suscitent de vives inquiétudes.
On ne compte plus les provocations du représentant de l'extrême droite religieuse, identitaire et raciste, ni ses propos anti-palestiniens et homophobes.
Ces Palestiniens, enfin ceux qui se disent palestiniens parce que ça n'existe pas, il n'y a pas vraiment de peuple palestinien. Historiquement, nous avons toujours vécu ici. Le peuple palestinien est un terme récent, vieux de quelques décennies. Il y a des Arabes qui peuvent vivre en paix et en sécurité ici, et je n'ai aucun problème avec eux.
Il vit à Kiryat Arba, dans le sud de la Cisjordanie, aux portes de la ville palestinienne d'Hébron. C'est dans cette colonie, laboratoire du sionisme religieux dont l'accès est protégé par un checkpoint militaire, que l'on retrouve Frédéric Métezo et Jérémy Thuil. Ils sont accueillis par le maire de la ville, Eliaou Livman.
Shalom. 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 Frédéric.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs français pourquoi vous considérez qu'ici, c'est l'État d'Israël, alors que le droit international dit que c'est un territoire occupé et que nous sommes dans une colonie?
Nous sommes là parce qu'en vertu de la tradition juive, nous sommes revenus sur la terre de nos ancêtres, sur le lieu du foyer juif. C'est dans ce foyer, ici même, qu'a commencé l'histoire du peuple juif. Et quand je dis « ici », je parle de toute la terre d'Israël.
Est-ce que ça veut dire que Israël est un État religieux, est une théocratie, ou est-ce que vous voulez que ça le devienne?
Nous ne sommes pas pour la contrainte religieuse. Les gens peuvent vivre en accord avec leur conscience. Mais oui, nous souhaitons construire une identité juive, un mode de vie juif en public, pour faire de l'État israélien un État juif, dans lequel on respecte les fêtes religieuses et le Shabbat au niveau national. En revanche, dans la sphère privée, chaque individu peut vivre sa vie comme bon lui semble, sans qu'aucun d'entre nous ne lui impose sa façon de faire.
Mais en ce moment, parce qu'il y a des projets de réforme judiciaire très critiqués, les Israéliens sont très divisés. Des centaines de milliers d'Israéliens critiquent le gouvernement et une partie du gouvernement critique ces manifestants. Et un gouvernement que vous soutenez.
Il est clair pour tout le monde que le gouvernement n'a pas été élu pour être une décoration. Il a été pour gouverner et pour appliquer une politique. La réalité en Israël, c'est que depuis des années, d'un côté on dit démocratie, mais dans les faits, le gouvernement qui a été élu ne peut pas mettre à exécution ce pourquoi il a été élu. Ceux qui décident en fin de compte, ce sont des juges au tribunal que personne n'a élu et certains se sont choisis eux-mêmes.
On va se rendre après vous avoir rencontré à Hébron pour rencontrer des Palestiniens. Cette situation, elle ne peut pas durer. Il y a des morts presque tous les jours. Il y a une occupation, il y a une insécurité, il y a une inquiétude du côté des Palestiniens et des Israéliens. Comment vous voyez la suite ?
Écoutez, en 1980, j'étais un enfant de 10 ans et j'habitais dans le quartier de Beit Hadassah, à 5 minutes à peine de route d'ici, à côté de Kiryat Arba et du tombeau des patriarches. Un jour, quatre terroristes arabes ont ouvert le feu. C'était un attentat terrible. 6 juifs ont été assassinés et 16 autres ont été blessés. Moi, j'ai survécu à l'attentat. Aujourd'hui, je suis le maire de Kiryat Arba et le maire d'Hébron, c'est l'un de ces terroristes.
J'entends ce que vous dites sur le maire d'Hébron, mais quelques années après cet attentat, à Hébron, précisément, au caveau des patriarches, Barour Goldstein a tué 29 musulmans en prière. Barour Goldstein, il est enterré tout près d'ici et des gens lui rendent hommage. Ça veut dire que des deux côtés, il y a des gens qui soutiennent la violence.
Votre comparaison n'est vraiment pas bonne. Chez les Juifs, vous ne pouvez me citer qu'un seul nom. Chez les Arabes, il y a des dizaines de milliers de terroristes qui, chaque jour, tuent des Juifs. Nous, ce n'est pas notre éducation, ce n'est pas notre façon de faire et ce n'est pas représentatif de ce qui se passe depuis 75 ans avec le peuple juif. C'est l'inverse chez nos ennemis, ils veulent nous détruire à tout prix.
Nous sommes donc à présent dans la ville d'Hébron, ville autonome. On entend autant les radios palestiniennes que les radios israéliennes. Et c'est vrai que les populations vivent si près les unes des autres que ça se retrouve aussi sur la bande FM où on passe facilement d'une radio israélienne à une radio palestinienne et vice-versa. Nous sommes passés dans la ville d'Hébron, dans la ville autonome palestinienne. On est là dans le souk, dans le marché d'Hébron, très fréquenté avec les marchands d'épices, les marchands de viande, les marchands d'objets souvenirs. Et au-dessus de nous, quand on lève la tête, on voit des grillages par endroits. Ce sont des grillages que les Palestiniens ont installés pour se protéger parce que juste au-dessus d'eux, ce sont les fenêtres des colons israéliens, un peu comme ceux de Kiryat Arba, mais qui sont là implantés au cœur de la ville d'Hébron. Et parfois, ces colons israéliens, ils jettent des objets, des ordures, des couches de bébés sales pour énervé pour faire perdre patience à la population palestinienne. Et on va rentrer dans la ville moderne d'Hébron à la sortie du marché pour aller voir une personnalité palestinienne, Anwar Abou Eiché.
Interception sur France Inter. Jérémy, qui est arrivé de Paris.
Ahlan wa sahlan, ça veut dire bienvenue.
Shukran,
voilà.
Shukran.
Tu t'es bien garé ?
Le long là-bas, oui. Tout va bien.
Bien, ça va. Ahlan wa sahlan.
Je suis en train d'écrire.
Voilà. Ahlan wa sahlan.
Merci beaucoup.
Aïe, ça va.
Ah, c'est le vent.
C'est le vent.
C'est le courant d'air.
Mais tant mieux, tant mieux. Anwar Abouyeché, d'Hébron, de Palestine, et mon métier, c'est professeur de droit. Voilà, et je vis actuellement à Hébron, donc sous occupation militaire israélienne.
Et vous avez eu des fonctions importantes dans l'administration palestinienne ?
Oui, j'étais toujours à l'OLP, à mes corps. Bon, j'ai eu le poste de ministre de la Culture.
Vous avez quel âge, Anwar Abouyeché ?
71 ans.
Ça veut dire que depuis votre adolescence, vous vivez sous occupation. Est-ce que vous avez senti cette occupation évoluer au fur et à mesure qu'évoluait l'État d'Israël lui-même ?
Je crois que la société israélienne est dominée par les colons et par le lobby colonial. Ces extrémistes ne veulent absolument pas de solution pacifique. Ils ne veulent pas d'État palestinien, ils le déclarent, ils le disent. Et donc, ils ont une attitude agressive à pousser les gens à quitter le pays.
Les Israéliens s'enferment dans leur tête, c'est ça que vous voulez dire ?
Dans leur tête, et géographiquement aussi. Ils sont entre eux. J'ai l'impression que les Israéliens s'enferment chez eux et ils ne veulent pas voir, ils veulent avoir une tranquillité, une sécurité à l'intérieur des barbelés qui les entourent. Et donc, on ne vit pas ensemble. Ils ne nous connaissent pas.
Ces colons de Kiryat Arba, et d'ailleurs, ils disent « On est là parce que cette terre nous a été donnée par Dieu, parce que c'est la Torah qui nous l'a donnée ». C'est un discours qui se disait il y a 55 ans, au moment de l'occupation, ou pas ?
Je crois que c'est plus répandu maintenant. Mais ça a toujours existé dans le sionisme. Mais bon, si on peut dire que le sionisme, il y a sionisme gauche, sionisme droite, sionisme centre, on ne sait plus quel sionisme, quoi. Ça devient beaucoup plus religieux que sioniste. Je fais partie depuis 2014 d'un comité qui s'appelle Comité de communication avec la société civile israélienne. Et notre tâche est d'aller vers les Israéliens et leur dire, voilà notre politique, voilà ce que nous voulons. Parce qu'ils ne savent pas. Et la propagande chez eux que tous les Palestiniens, tous les Arabes veulent jeter les Juifs à la mer, il y en a vraiment qui croient à cela.
Cette société civile israélienne, en tout cas une partie, elle s'est réveillée depuis plusieurs mois. Elle conteste le projet de réforme judiciaire. Comment vous jugez ce mouvement de manifestation en Israël ?
Je ne crois pas que tous les manifestants contre Netanyahu croient à une solution de deux États.
Il y a quand même quelques drapeaux palestiniens, il y a des affiches anti-occupation.
Oui, c'est vrai. Oui, non, mais moi, je dis chapeau aux associations israéliennes de droits de l'homme qui ont souvent réussi à alléger nos souffrances.
Mais c'est une toute petite minorité.
Malheureusement, oui.
Il y a les Palestiniens des territoires occupés, mais également les Palestiniens d'Israël, ceux que l'on appelle les Arabes israéliens. Ils représentent environ 20% de la population, majoritairement musulmans, mais aussi parfois chrétiens. Ils vivent ici depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et ont vu une partie de leur famille fuir ou être massacrée lors de la création d'Israël en 1948. C'est ce qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe. Ils ont un passeport israélien, mais détestés par les extrémistes religieux juifs, privés de certains droits, ils participent pourtant à la vie du pays. Ils sont notamment très présents dans le système de santé publique, où ils occupent des postes de médecins, d'infirmières ou d'agents administratifs. Frédéric Mettezo et Jérémy Tuil sont allés les rencontrer à Kfar Kana, près de Nazareth, à 2 heures de route au nord de Jérusalem, en Galilée.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا معك شهاته كيف حالك؟
أشانتي دكتور كيفك؟
I can't speak French. You can speak English.
Vous parlez français?
Non, français. Pas russe.
Ah non, pas russe.
No, you have to wait a little because I have a lot of patients, okay?
Please, please.
Je suis Anan
Faranich de Nazareth. Je suis une Palestinienne qui a la nationalité israélienne. Je suis chrétienne, catholique, et je travaille comme secrétaire médicale dans une Koupa Tolim, c'est-à-dire une caisse de santé.
Comment on est à la fois palestinienne et de nationalité israélienne?
Parce qu'à l'origine, nous sommes palestiniens, mais nous sommes nés après la création de l'État d'Israël. Nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents étaient palestiniens. On les a donc appelés les Arabes israéliens. C'est pourquoi nous appartenons aux Palestiniens et à la Palestine, mais nous avons une carte d'identité israélienne et la citoyenneté. Tout cela est la conséquence de la situation politique. Mais je ne fais pas trop de politique, je suis très loin du conflit politique.
Est-ce que vous êtes fière et heureuse de travailler dans ce système de santé publique israélien?
Ah oui, bien sûr, nous avons ici 4 caisses d'assurance maladie publique. Et c'est très bien car tout le monde peut accéder aux services dont il a besoin de façon égalitaire. On a tous les mêmes droits, il n'y a aucune différence entre les riches et les pauvres qui ne pourraient pas se payer ces prestations. J'aime mon travail et ce que je fais. Le système de santé existant garantit l'égalité des droits. Tout le monde peut obtenir le traitement dont il a besoin. Je suis donc très fière de mon travail, j'aime ce que je fais et je ressens la justice et l'égalité entre tous.
Ça va pas toujours de soi, l'égalité en Israël?
C'est vrai, dans de nombreux autres domaines, il n'y a pas d'égalité. Vous sentez ça, évidemment, quand il s'agit d'embaucher des Palestiniens dans certains métiers. L'égalité la plus visible concerne le secteur de la santé, et c'est la chose la plus importante. Dans mon travail, on ne se mélange pas beaucoup avec les Israéliens juifs, donc je n'en souffre pas. Ici, tout est arrangé et bien organisé, il n'y a pas de racisme, mais ailleurs, oui, il y a beaucoup de discrimination et de racisme, surtout dans les quartiers et les villes mixtes entre juifs et arabes.
Je suis le docteur Choukri Awaoudé, je suis médecin spécialiste des troubles mentaux. J'exerce depuis 35 ans et j'ai travaillé pendant 11 ans dans des hôpitaux israéliens, dans les villes de Ramleh et Haïfa.
J'ai l'impression, docteur, que s'il n'y avait pas ces Arabes israéliens, ces Palestiniens d'Israël, le système de santé israélien ne fonctionnerait pas.
C'est la réalité, et c'est ce qu'on voit sur le terrain, car les médecins arabes palestiniens sont le fer de lance du secteur médical. Ils ont prouvé au fil des années qu'ils étaient des sortes de soldats en uniforme blanc, particulièrement pendant le Covid. Nous sommes 8500 médecins sur les 40 000 médecins que compte le pays, soit plus de 20% des effectifs. Les Palestiniens représentent 40% des infirmières et 50% des pharmaciens du pays.
Quand on est palestinien, est-ce que c'est évident, est-ce que c'est facile de servir l'État d'Israël ?
C'est d'abord notre patrie. Nos ancêtres sont nés avant la création de l'État d'Israël et vivaient ici depuis des milliers d'années dans la Palestine historique. Ceux qui sont venus ici, ce sont les Israéliens et non les Arabes palestiniens. Ensuite, nous avons étudié la médecine et nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Nous devons soigner tout le monde, même nos ennemis. Nous n'avons aucun problème, nous ne faisons aucune différence, que les patients soient musulmans, chrétiens ou juifs. C'est pareil avec des Occidentaux ou des Orientaux. Nous avons déjà à traiter avec différentes nations du monde. Nous les traitons de façon égale, comme des êtres humains, quelle que soit leur religion ou leur origine ethnique.
Le gouvernement actuel d'Israël, qui est très à droite, pour vous, c'est un adversaire politique ? C'est un ennemi ?
Ce gouvernement est hostile à son peuple. C'est un gouvernement de droite, d'abord hostile aux Juifs. Comme vous le savez, chaque semaine, des centaines de milliers d'Israéliens protestent contre ce gouvernement et sa politique. En langage médical, nous utilisons le terme syndrome. En politique, on pourrait parler du syndrome du gouvernement de droite, avec ses symptômes du fascisme et de l'extrémisme. Que sont les deux ministres, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich? Parce qu'ils ne croient qu'au grand Israël. Ils sont hostiles aux laïcs, à la communauté LGBTQ, aux Palestiniens, musulmans et chrétiens, et même aux Druzes qui ont servi loyalement dans l'armée israélienne, qui sont brutalement opprimés et leurs terres sont confisquées. Il n'y a donc aucune confiance dans ces nouvelles institutions qui symbolisent le fascisme. Ils ne voient pas son existence réelle sur le terrain. Je souhaite que la démocratie gagne en Israël et préserve la haute cour de justice des projets de réforme. Nous avons bien des critiques et des réserves vis-à-vis de cette haute cour qui n'a jamais rendu justice aux Palestiniens et pratique la démocratie uniquement pour les Juifs. Mais c'est cette démocratie qu'ils veulent détruire. C'est pourquoi je crois en la victoire inévitable du peuple sur le fascisme. Notre problème n'est pas avec les Juifs en tant que nation. Notre problème est avec les dirigeants sionistes. Israël a détruit la solution à deux États. Donc la solution à un État s'impose de facto s'il n'y a plus de solution à deux États.
On est à Tel Aviv et on va rencontrer l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Il incarne toute une partie de l'histoire d'Israël. Il a 81 ans, il a été soldat d'élite, il a été chef d'état-major, il a été Premier ministre. C'est le dernier Premier ministre de gauche de l'histoire d'Israël. C'est un témoin direct de l'évolution politique de ce pays. On a rendez-vous dans son bureau au 11e étage dans un building de Tel Aviv.
Shalom, Adoni Roche Memshala. Shalom, bonjour. Frédéric.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va et vous? Enchanté. Vous parlez très bien français.
Merci bien.
Elle est francophile.
Francophile et francophone.
Francophone.
Vous aussi, vous parlez français?
Il écoute.
Monsieur le Premier ministre, merci de nous recevoir. L'État d'Israël a 75 ans. Vous étiez un petit garçon quand l'État a été fondé. Est-ce que vous avez un souvenir de cette époque? Vous aviez 6 ans.
Oui, bien sûr, je m'en souviens. L'émotion était grande. Même un enfant de 6 ans comme moi pouvait comprendre qu'il se passait quelque chose de sensationnel. Je ne savais pas encore que c'était l'histoire, mais je comprenais que quelque chose d'important se passait. Nous avons écouté Ben-Gourion à la radio. Il parlait avec un hébreu un peu bizarre. Il venait de Pinsk, en Pologne, aujourd'hui en Biélorussie. Il avait un phrasé en hébreu bizarre et unique. Il était le seul à parler comme ça. Nous déclarons l'État, l'État d'Israël,
Cet Israël des années 50 et 60, est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Tout le pays était socialiste.
C'est pas bolchevique.
Un brin bolchevique, mais en gros socialiste depuis 1910. La gauche a construit et préparé le pays. Elle a construit un mur infranchissable autour de lui. Elle nous a menés à la guerre des six jours, elle nous a menés à la guerre de 73. J'ai été un grand échec à cause de négligence, mais qui a ouvert la voie aux accords de paix. Pendant ces mêmes années, de 67 à 73, un autre mouvement est né. Un mouvement qu'on peut voir aujourd'hui au centre des débats, et pour qui établir un État normal n'est pas quelque chose de suffisant. Il a une vision plus poussée. Établir ici un État qui serait le prolongement direct de celui qui existait il y a 2500 ans. Il veut revenir aux sources du rêve du grand Israël. Un rêve qui faisait partie de la tradition de droite de Begin. Mais en fait, derrière ce rêve, c'est la volonté de pouvoir tout contrôler partout. Comme si nous avions une mission divine. On en est à un point où désormais, certains éléments agités et marginaux veulent revenir au sacrifice sur le mont du Temple. en étudiant des chèvres et des agneaux. C'est une vision des choses scandaleuse, encouragée par le succès de ces idées dans la société. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Israël, le dossier le plus important, c'est la question palestinienne. Nous les contrôlons temporairement depuis maintenant 55 ans. Ça fait deux générations, presque trois. Ici, on dit que tout ça est temporaire. Donc moi, la question que je pose, c'est que va-t-il se passer ? Si votre vision est d'avoir un seul État entre le Jourdain et la Méditerranée, une seule entité politique qui s'appelle Israël, alors il sera inévitablement soit non-juif, soit non-démocratique. Parce qu'aujourd'hui, entre le Jourdain et la mer, la moitié est arabe et l'autre moitié est juive. Si on parle d'une seule entité politique, et si les Arabes peuvent voter, immédiatement, l'État devient binational et rapidement, il deviendra un État binational avec une majorité palestinienne. Ce n'est pas cela, la vision sioniste. Et si ces millions de personnes ne peuvent pas voter de manière systématique, alors ce n'est pas une démocratie. Je ne veux pas utiliser le mot qu'on employait sur le continent voisin, en Afrique du Sud. Je ne veux pas répéter ce mot, car il ne correspond pas exactement à la réalité, mais il est certain que ce ne serait pas une démocratie. Israël, la tentation théocratique, c'était un reportage de Frédéric Mettezo. Prise de son Jérémy Tuil, traduction Emmanuel Elbaz Phelps et Maral Coutinier. Réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier et Thomas Lehété. Mixage Pierrick Charles. Vous pouvez réécouter cette émission dès maintenant sur le site de France Inter.